Avant de retrouver Pierre Bédier, président du Conseil général des Yvelines, je vous propose un rapide historique des conseils généraux. Alors, la notion de département apparaît en 1789, avant d'être institutionnalisée un an plus tard par le décret du 28 février 1790. Depuis, les départements sont devenus de véritables piliers de l'administration française. La fin du XVIIIe siècle voit donc le découpage des provinces de l'Ancien Régime en 83 départements. Ce fractionnement permet à chaque citoyen de se rendre à son chef-lieu et d'en revenir en une journée à cheval. Cette réforme fondamentale poursuit un double but, celui de rapprocher l'administration des administrés et celui de rapprocher chaque citoyen autour d'un fonctionnement administratif nationalement idéal. Aujourd'hui, le territoire français métropolitain est divisé en 95 départements. Mais c'est en 1800 que Napoléon Bonaparte crée les conseils généraux, qui ont pour mission de gérer les départements. Et à cette époque, le pouvoir exécutif est assuré par le préfet, représentant de l'État, dans chaque département. Les conseillers généraux qui constituent l'Assemblée sont élus à partir de 1871. C'est la loi du 10 août 1871 qui régit l'organisation administrative du département. 1982, la décentralisation, la renaissance des conseils généraux. Rompant avec des siècles de centralisme, la loi du 2 mars 1982 réforme le fonctionnement des collectivités territoriales. Considérée comme une véritable révolution administrative, cette loi est complétée par un ensemble de textes définissant la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. On y trouve également des dispositions concernant le statut des élus ou la réforme de la fiscalité locale. Cette loi donne également un nouveau mode de fonctionnement au département en supprimant l'intervention préalable du préfet et en offrant le pouvoir exécutif au président du Conseil général. Aujourd'hui, chacun reconnaît que la loi du 2 mars 1982 a fait du département une collectivité à part entière. Retrouvons immédiatement notre invité.
Alors, rencontre avec Pierre Bédier, président du Conseil général des Yvelines. Bonsoir, Pierre Bédier.
Bonsoir.
Je rappelle que vous avez été élu président du Conseil général le 16 septembre dernier en remplacement de Franck Borotra, démissionnaire. C'est une lourde succession ?
Incontestablement, d'abord parce que c'est un beau département, mais aussi un département de poids. Et donc, ça nécessite un travail important. Et ensuite, parce que je succède à un homme qui, je crois, était reconnu comme exceptionnel sur tous les bancs de l'Assemblée, à gauche comme à droite.
Bien. Alors, je rappelle l'identité du Conseil général des Yvelines. Rassurez-vous, on ne va pas vous abreuver de chiffres, mais simplement faire une piqûre
de
rappel.
C'est surtout pour les auditeurs.
Voilà, pour les auditeurs, bien sûr, ça ne vous concerne pas. Alors, le département, c'est 262 communes, une superficie de 2284 km², une population de 1 400 000 habitants, et on le verra tout à l'heure, 100 600 hectares de terres agricoles. Alors, avez-vous encore un chiffre significatif, Pierre Bélier, pour situer votre département ?
Moi, il y en a un qui m'obsède, entre autres, mais parce que c'est la priorité de mes priorités, on a 12 600 RMistes. Et ces 12 600 RMI de trop, enfin, j'exagère en disant cela, mais la priorité des priorités du département, parce que c'est au cœur de ces missions qui sont donc l'action sociale et toutes ces déclinaisons, ce qui est au cœur de notre politique, c'est de faire reculer cette précarité, cette misère liée à ce revenu minimum d'insertion et de pouvoir proposer à ces personnes de vrais parcours de réinsertion professionnelle et même plus largement dans la société.
D'accord. Bien. Alors, si vous voulez bien, nous allons aborder poste par poste les grands dossiers du département. Alors, en premier lieu, le logement. Mais en préambule, précisons que le parc s'élève à 560 000 logements et, surprise, 35 000 logements vacants. Alors, une question bateau, mais que tous nos auditeurs se posent, ils doivent forcément se poser. Dans cette période de crise du logement, comment se fait-il qu'il y ait pour le seul département des Yvelines 7% de logements vides ? N'est-ce pas une aberration ?
Oui, c'est une aberration. Encore que vous savez, on ne peut jamais arriver à une équation parfaite entre l'offre et la demande. Ça serait trop beau. Alors pourquoi y a-t-il du logement inoccupé ? Pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'il y a des locataires qui ne veulent pas aller dans certains logements, parce que ces logements sont extrêmement dégradés et ne correspondent plus aux standards de vie actuels, ou parce qu'ils sont dans des sites insécures, inquiétants, dans certains quartiers coupe-gorge. Mmh. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est qu'on a beaucoup de vacances aussi dans les centres-villes. Ce sont ces appartements qui sont au-dessus des commerces. Autrefois, c'était les appartements des commerçants. Mmh. Et donc, on accède à ces appartements par la boutique.
D'accord.
Il n'y a pas d'accès aujourd'hui.
Extérieur.
Habitant ailleurs, il n'y a pas d'accès extérieur et donc l'impossibilité d'y aller. Alors, c'est pas l'essentiel de ces logements, mais on a quelques milliers de logements qui connaissent ce problème. Alors, dans le premier cas, comment apporter une réponse ? C'est par de la restructuration urbaine, par l'amélioration des conditions de sécurité, c'est par aussi la remise aux normes de ces logements. Et puis dans le deuxième cas, c'est par l'aménagement de ces entrées extérieures qui ne sont pas toujours évidentes à faire. Autant d'actions que le département va conduire dans les mois et les années qui viennent, parce que ce sont des décisions qu'on peut prendre assez rapidement, mais qui nécessite un certain temps pour produire des effets. Et c'est pourquoi le département, dès le mois de février, a voté une importante...
On va en reparler.
Une importante délibération de politique du logement, principalement là pour construire. Parce qu'il y a aujourd'hui des logements non occupés, c'est vrai, mais il y a de toute façon obligation de moderniser notre parc et donc de relancer la construction.
Alors, donc, c'était lors de la séance du 24 février, je crois bien.
Exactement, hein, vous êtes bien renseigné.
Donc, vous avez déterminé cette politique en faveur du logement. Qu'en est-il ressorti dans les grandes lignes?
Alors, d'abord, pour pouvoir construire du logement, puisqu'on s'est surtout centré donc, sur la construction, il faut des terrains. Nous créons donc un outil pour acquérir ces terrains qui s'appellera l'agence foncière départementale, qui sera dotée de sommes importantes pour pouvoir procéder à ces acquisitions de terrains en partenariat avec les communes. Parce qu'ensuite, une fois qu'on a les terrains, il faut qu'on ait un accord de la commune pour construire, puisque les maires et les conseils municipaux sont les responsables de ce qu'on appelle le droit du sol. Ce sont eux qui, à travers le plan local d'urbanisme, qu'on appelait autrefois plan d'occupation des sols, décide si on peut construire à tel ou tel endroit et ce qu'on peut construire à tel ou tel endroit. Et c'est pourquoi il y aura, dans cette délibération, prévue par cette délibération du 24 février, il y aura des contrats de développement de l'offre résidentielle. L'idée, c'est d'avoir un partenariat avec les élus communaux qui consiste à voir avec eux, pour les 5 ans qui viennent, ce qu'on va construire sur leur commune en termes généraux. Logement classique, hein, l'accession à la propriété, ce qu'on va construire en logement social, puisqu'on a besoin de construire du logement pour les plus modestes, pas dans des grandes ZUP comme on faisait dans les années 60, mais des petites unités bien intégrées à l'ensemble urbain, quelques logements par-ci, par-là, et un nouveau produit, enfin qui existe mais depuis longtemps, mais qui va être particulièrement mis en exergue par le département, donc nouveau en ce sens, qui est l'accession à la propriété pour les plus modestes. Et la possibilité donc de faire qu'ils puissent s'endetter sur une période un peu plus longue, qu'ils n'aient pas à rembourser tout de suite le terrain sur lequel est construit le bâtiment qui les héberge, de façon à ce que le prix de remboursement mensuel soit l'équivalent d'un loyer dans le secteur HLM. C'est ce qu'on appelle donc l'accession sociale à la propriété. Et elle a pour cible principale les jeunes ménages yvelinois qui aujourd'hui ne peuvent pas acquérir dans le département des Yvelines étant donné la cherté. Donc on va essayer d'avoir des produits moins chers avec un certain nombre de contraintes naturellement, mais des produits moins chers pour ces jeunes ménages.
D'accord. Alors, bien sûr, il n'y a pas que le logement, il y a également le plan d'aménagement où viennent s'inscrire les transports et les travaux d'investissement sur les routes départementales, par exemple. Quels sont ces grands travaux?
Alors, le département a un réseau, je crois, de routes départementales qui est particulièrement performant. Mon prédécesseur avait l'habitude de faire refaire les bandes de roulement tous les 7-8 ans, hein, ce qui est coûteux, mais qui produit des résultats. Donc on a donc une qualité de déplacement bien meilleure. Mmh. Alors, il nous manque néanmoins des infrastructures importantes dans le département. Se pose pour nous le bouclage de la Francilienne.
Ouais.
C'est un grand débat public qui vient d'être ouvert par l'État. Se pose pour nous le problème de N10 à 12. Que faire dans ce secteur ô combien sensible et largement embouteillé?
Et là, nous sommes très intéressés, nous.
Que faire aussi dans la vallée de la Moldre, qui aujourd'hui est un axe emprunté par des milliers de camions, alors que c'est à l'origine une petite route qui serpente dans la vallée de la Moldre. Donc nous avons un certain nombre d'infrastructures routières qu'il faudra faire dans le département. Et je voudrais à cet instant dire une chose. Nous sommes un département de grande couronne, c'est-à-dire avec un territoire vaste, vous l'avez rappelé, des centaines de milliers d'hectares, des milliers de kilomètres carrés, avec 1,4 million habitants, dont beaucoup ne travaillent pas dans le département et vont donc chercher du travail en dehors du département. Croire que par les seuls transports en commun ferroviaires, on pourrait apporter réponse aux embouteillages est une idée qui n'a pas grand sens. Il n'y aura pas de tramway ou de métro entre Mantes et Rambouillet. Pour une raison évidente, c'est qu'il n'y aurait pas assez de personnes pour rentabiliser cette infrastructure qui coûte infiniment plus cher que la seule infrastructure routière. Il nous faut donc, en Yvelines, avoir des routes. Alors que sur ces routes, il faille s'organiser pour qu'il y ait du transport en commun, donc du transport par bus et par bus confortable. Oui, c'est une nécessité. Et c'est une nécessité qui doit être portée dans le cadre du syndicat des transports d'Île-de-France, puisque c'est lui qui est l'organisateur du transport en Île-de-France. Donc j'insiste bien auprès de vos auditeurs, si on veut désengorger ce département, il faut construire des routes. C'est capital, utile. Il faut accepter que ces routes passent dans sa commune, parce que c'est toujours trop facile de dire « allez les construire ailleurs chez les autres ». Ouais. Les autres n'en veulent pas forcément, donc il faut être citoyen dans cette acceptation. Et deuxièmement, il nous faut développer le transport collectif routier, et pour ce faire, obtenir l'aide du syndicat des transports d'Île-de-France, présidé aujourd'hui par le président du conseil régional. Ce sont en tout cas les deux objectifs que je poursuis.
Très bien. En matière d'environnement, quelles sont les grandes manœuvres engagées par le Conseil général ? Et entre parenthèses, je voudrais que vous nous touchiez deux petits mots de ce fameux biotope du bout du monde, que peu de personnes connaissent finalement, puisqu'il n'est pas ouvert au public. Je rappelle que c'est au nord d'Épône.
Tout à fait. C'est au nord d'Épône et quasiment en bord de Seine. La politique environnementale du département a toujours été importante, constante. Le département est très attaché à défendre le patrimoine exceptionnel que représentent les espaces naturels dans les villes. Ce département a hérité des habitudes environnementales de nos monarques. Louis XIII, Louis XIV, Henri IV étaient de grands chasseurs et les chasses royales couvraient largement notre département et ça explique aujourd'hui qu'une très très grande partie soit un espace encore très privilégié et très naturel. Donc nous nous inscrivons dans cette continuité historique, protéger notre environnement et nous disposons pour cela d'un certain nombre de dispositifs de gel par des décisions juridiques, par des acquisitions d'espaces naturels sensibles. Et puis, nous accompagnons, à travers toute notre politique contractuelle, à travers la politique contractuelle de l'eau, à travers la politique contractuelle en direction des communes, nous accompagnons cette dimension environnementale. Et pour répondre à votre question très précise sur ce petit bout du monde, c'est un lieu effectivement assez exceptionnel, et pour qu'il reste exceptionnel, il ne faut pas l'ouvrir au public. C'est parfois la contradiction qu'il peut y avoir entre l'aspiration de nos concitoyens à découvrir des lieux merveilleux et la nécessité qu'il y a à les protéger absolument. Si ça devenait un lieu touristique, naturellement la faune et la flore qui sont très particulières à cet endroit n'y survivraient pas.
Pourtant, j'avais cru comprendre que vous vouliez organiser un parcours piéton.
Alors, qu'ensuite, à cet endroit, comme dans des forêts régionales, comme dans d'autres sites particuliers du département, on s'efforce d'en ouvrir une petite partie au public, oui, bien sûr, mais ce sera toujours d'une façon très restrictive et très encadrée, car encore une fois, si 1 400 000 Yvelinois défilent dans ces lieux, ils n'auront plus rien de naturel.
Bien sûr. Bien, alors, on survole un petit peu tous les grands problèmes dont s'occupe le Conseil général. Alors, en matière de jeunesse et sport, vous avez organisé récemment, le 27 février, je crois, il me semble bien, un grand forum réunissant des athlètes et d'anciens champions de haut niveau, ainsi que des responsables sportifs et éducatifs. Qu'en est-il ressorti ? Parce que je crois que vous êtes très attaché à ce volet.
Alors, le département, c'était, par le biais de mon discours d'investiture le 16 septembre, fixé 5 priorités. Une première que je vous ai rappelée tout à l'heure, qui est la lutte contre la précarité et donc l'engagement en faveur des RMistes pour les aider à sortir de leur insertion. Nous avons évoqué les questions de transport, qui sont une priorité pour nous. Nous avons évoqué les questions de logement, qui sont une priorité pour nous. Et c'est vrai qu'il y a une quatrième priorité qui est le schéma départemental de développement équilibré, et on l'a un peu abordé à travers les questions environnementales. Il s'agit de préserver notre patrimoine naturel, entre autres. Et puis le cinquième sujet, pas dans l'ordre d'importance, c'est cette politique que je souhaite engager en faveur des adolescents. Les adolescents, c'est une population qui, d'abord, est relativement indéfinissable. À quel âge commence l'adolescence ? À quel âge finit-elle ? C'est une population qui, dans toutes les civilisations, pose problème. Le passage à l'âge adulte a toujours été encadré par les sociétés. Peut-être l'est-il un peu moins dans la nôtre. Et peut-être qu'une des raisons de la crise de la jeunesse tient aussi à ce fait que cette période de l'adolescence, aujourd'hui, n'est plus le sujet des adultes. Et on ne favorise pas l'entrée dans l'âge adulte. Or, c'est de notre responsabilité d'adulte. Alors, une fois que j'ai dit ces généralités un peu anthropologiques, je voudrais maintenant en venir sur ce que nous souhaitons faire. D'abord en partenariat avec l'éducation nationale, avec les grandes associations d'éducation populaire, avec les collectivités locales que sont les communes, et puis toutes celles et tous ceux qui veulent s'engager dans ce dispositif, nous souhaitons proposer, à partir de cet été de façon expérimentale, et en fonction de nos expérimentations, on généralisera ça sur le département, à tous les adolescents, et pas simplement aux adolescents situés dans des quartiers sensibles, des activités de type sportif, culturel, éducatif, qui pourrait se dérouler toute l'année en complément de l'éducation nationale et en complément, naturellement, de l'éducation apportée par les familles. On serait, en quelque sorte, toute cette fédération d'énergie, on serait non pas un encadrement de l'adolescent, mais on serait un accompagnement de l'adolescent dans sa construction de son passage vers le monde adulte.
D'accord. Bien, on va adopter une pause musicale et puis nous reprenons tout de suite cette émission. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de RVE et vous avez bien raison. Rencontre avec Pierre Bédier, le président du Conseil général des Yvelines. Alors, nous poursuivons cette émission avec le volet économique qui est un vaste volet, bien sûr. Alors, dans ce volet économique, il y a l'offre immobilière et foncière, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus ?
L'agence foncière départementale fera aussi dans le domaine économique une action forte.
Alors, le volet promotion et prospection, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est ça ?
Promotion et prospection, ça veut dire faire connaître, promouvoir le territoire yvelinois comme étant un territoire particulièrement favorable au développement économique. Et la prospection, c'est essayer de trouver les entreprises susceptibles de venir s'installer dans notre département. D'accord. Pour s'y installer et s'y développer.
D'accord. Bien. Offre, alors oui, volet très important, offre très haut débit au niveau des télécommunications.
Alors ça fait partie de l'attractivité du territoire. Quand on veut faire la promotion du territoire, il faut qu'on dise qu'on est meilleur que les autres. Et si on veut être cru, il faut qu'on puisse faire la preuve qu'on est meilleur que les autres. Eh bien, nous avons une preuve de notre très grande qualité, c'est que le département s'est engagé à l'initiative de mon prédécesseur sur les liaisons haut débit offertes aux industriels, enfin aux entrepreneurs du département, et avec une puissance de haut débit incomparable, c'est-à-dire bien supérieure à celle offerte par la DSL d'un grand opérateur public. Et autant le grand opérateur public et sa puissance conviennent parfaitement aux particuliers, autant dans des entreprises comme par exemple le leader mondial des logiciels 3D, et Dassault Systèmes, pour un leader mondial comme celui-là, pouvoir bénéficier de liaisons haut débit est quelque chose de très important. Et ça explique peut-être en partie pourquoi Dassault Systèmes, implanté dans les Hauts-de-Seine, a choisi aujourd'hui de venir s'installer dans le département des Yvelines. Je rappelle que ce sont plus de 2500 emplois et bientôt 3000 qui, comme ça, viennent dans notre département.
Mais comment le Conseil général peut peser sur ces travaux ?
En les finançant.
Vous les financez.
Avons un concessionnaire que nous avons sélectionné par appel d'offres, qui conduit ces travaux. C'est une filiale d'un grand groupe de BTP, donc je ne dirai pas le nom pour ne pas lui faire de publicité. Et ensuite, à lui de commercialiser auprès des entrepreneurs, étant entendu que c'est nous qui avons financé le principe de la concession.
D'accord, très bien. Alors, un volet important aussi, la recherche, le développement et l'innovation. Vous avez quelque chose à dire là-dessus ?
Aujourd'hui, la création de richesses, elle se fait par l'innovation. Si nous n'innovons pas, nous sommes rattrapés par, en particulier, les pays émergents qui produisent à des coûts inférieurs aux nôtres et qui, donc, nous dépasseront. L'innovation, c'est l'avenir des pays développés. Et comme les Yvelines sont en pointe de la richesse et du développement, il faut qu'on soit en pointe et toujours de l'innovation. Donc le département choisit, lorsqu'il décide d'encourager des entreprises, de les aider, plutôt que de les aider en saupoudrant des sommes ici ou là, selon des critères plus ou moins objectifs, nous on dit, on ne finance que de la recherche et développement. Donc une filière industrielle, une grande entreprise qui ont un projet de recherche et développement important, eh bien, on les finance, on les subventionne sur ce projet, parce qu'on sait qu'il y a un effet démultiplicateur. Ça va créer de la richesse.
D'accord. Et donc, vous intervenez par ce biais sur les pôles de compétitivité aussi ?
Exactement. Dans les pôles de compétitivité, nous sommes partenaires, associés. Nous n'intervenons pas pour le fonctionnement du pôle de compétitivité, c'est-à-dire on considère que ça...
c'est de la gestion pure.
La gestion qui doit être assumée d'abord par ceux qui le veulent et ensuite plutôt par les entreprises. Mais lorsqu'il y a un projet pour lequel les entreprises peinent à trouver des capitaux, c'est de notre responsabilité de décideur public que de faire cet apport.
Très bien. Alors, vous avez parlé des grandes entreprises, d'intervention auprès des grandes entreprises. Qu'en est-il des PME et des PMI ?
Alors, j'ai parlé des grandes entreprises, mais j'ai parlé aussi des filières. C'est moins évident pour les PME, PMI, encore plus les TPE, de faire de la recherche-développement.
Bien sûr.
Mais l'organisation, justement, des pôles de compétitivité et les Yvelines vont comporter trois pôles de compétitivité, ce qui fait de nous, là aussi, un département assez unique. Pour le Sud, je rappelle, c'est Cosmétique Valais, même si l'épicentre en est dans la région centre, justement. C'est le pôle systématique, donc très tourné vers les nouvelles technologies, plus particulièrement sur l'est du département. Et puis c'est Moveo, le pôle automobile, qui part du centre du département et qui couvre la vallée de Seine en direction de la Normandie. Ces pôles de compétitivité, c'est assez difficile à expliquer en radio. Donc je vais essayer de choisir l'image la plus parlante. C'est le principe de la ruche. C'est-à-dire que il faut un endroit où on puisse en permanence échanger de l'information, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et ce regroupement, cet échange-là, doit permettre aux petites entreprises, comme aux grandes entreprises, d'être plus performantes. Et le département, comme ça, pourra intervenir plus facilement si des PME ou des TPE se regroupent, par exemple, pour s'engager dans une opération de recherche et développement dans leur filière, le département pourra les accompagner.
Bien. Aide aux créations d'entreprises aussi ?
On fait de l'aide à la création d'entreprises, mais dans le cadre légal. Donc ça n'est pas... le département intervient indirectement, en particulier en favorisant la création de pépinières, d'hôtels, donc de lieux pour pouvoir accueillir les entreprises. Mais nous n'avons pas de système de capital risque où on donnerait de l'argent à un entrepreneur, à charge pour lui de nous rembourser éventuellement si son affaire marche.
Alors, on ne peut pas terminer cette émission sans que vous vous exprimiez quant à l'affaire vous concernant personnellement. Alors, d'abord, est-ce que vous souhaitez vous exprimer ? Et, de toute façon, vous savez que vous bénéficiez de la présomption d'innocence. Donc, à l'intérieur de cette présomption d'innocence, est-ce que vous souhaitez vous exprimer à ce niveau-là ?
Alors, l'affaire me concernant, puisque vous souhaitez qu'on en parle, parlons-en.
Vous n'êtes pas obligé, hein ?
Non, je n'ai aucune fausse pudeur sur ces sujets. Je crois qu'aujourd'hui, et beaucoup d'événements le prouvent, la médiatisation de la justice est la pire façon de pouvoir rendre la justice, qui a besoin, non pas de secret, mais qui a besoin de sérénité. Premièrement. Deuxièmement, qu'on s'interroge sur l'honnêteté des élus me paraît tout à fait légitime. Ils gèrent de l'argent public et il vaut mieux savoir à qui on remet les clés du coffre, et il vaut mieux le remettre à des gens honnêtes qu'à des gens malhonnêtes. Et troisièmement, en ce qui me concerne, je suis, me semble-t-il, c'est ma vérité, plus victime qu'autre chose dans une histoire de divorce douloureux. Des accusations complètement fantaisistes ont été portées à mon égard. Je pensais que la justice en ferait pièce bien avant l'étape à laquelle on arrive, ça n'est pas le cas, eh bien on ira tranquillement expliquer que on a la conscience, enfin que j'ai la conscience claire. Il y a un très beau vers dans Phèdre de Racine, un vers monosyllabique qui est, de mon point de vue, le plus bel alexandrin de la langue française. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. En l'espèce, je me sens complètement serein.
Bien. Deux mots de politique générale. Quelle est votre position par rapport au CPE ?
Je considère que, comme souvent en France, on caricature le débat public et que, partant de là, il y a des crispations qui empêchent la société d'avancer. Aujourd'hui, le constat, nous avons près d'un jeune sur quatre qui est au chômage, ce qui est la pire des précarités. Face à cela, il n'y a pas de solution miracle. Le CPE n'est pas la solution miracle, si vous voulez me l'entendre dire. Mais le CPE fait partie de la batterie nécessaire, des dispositifs indispensables pour faire qu'un jeune Français sur quatre puisse retrouver les chemins de l'emploi. Et donc ne faisons pas de ce CPE le monstre assoiffé de sang que certains veulent décrire. N'en faisons pas non plus la panacée universelle. Il est un des outils indispensables pour faire reculer la plaie du chômage des jeunes.
Bien. Deux mots, mais vraiment deux mots, quant à la mondialisation. Galileo et Airbus, deux exemples de réussite du marché unique face au reste du monde. Quand on dit que la Commission européenne est trop libérale, cela vous choque ?
Non, on ne peut pas demander, on peut pas demander à l'Europe d'être complètement ouverte à tous les vents quand on voit bien que d'autres pays se défendent. Vous avez évoqué Airbus. J'ai appris... Je vais apprendre quelque chose à vos auditeurs, sans doute. Je l'ai appris hier.
Tant mieux.
Eh bien, Boeing a fait des acquisitions massives de titane, qui est un métal rare, pour empêcher l'usinage de pièces de titane indispensables à la construction d'Airbus. Mmh. Bon. Donc, vous voyez qu'on est dans une lutte sans merci. Donc, ne soyons pas naïfs. Et laisser faire complètement par l'ouverture des frontières, par l'adéquation entre l'offre et la demande, c'est une position naïve. C'est vrai qu'il faut du libéralisme, en ce sens que c'est la meilleure mécanique qu'on ait trouvée pour rendre les dispositifs économiques plus performants. C'est la manière la plus responsabilisante. Et toutes les économies qui ont réussi sont des économies libérales. Et lorsque ces économies réussissent, elles réussissent pour... Les habitants des pays dans lesquels cette économie libérale est pratiquée. Donc n'ayons pas peur du libéralisme, mais ne soyons pas naïfs non plus. Le libéralisme, c'est pas la liberté pour les autres et les contraintes pour nous. C'est un mélange astucieux des deux. Et donc c'est pourquoi il faut que la Commission européenne elle ait une vision stratégique de défense aussi de l'Europe par rapport à ses grands concurrents internationaux que sont la Chine, l'Inde et naturellement les États-Unis.
D'accord, nous allons observer une deuxième pause musicale et nous concluons tout de suite cette émission. Vous écoutez toujours RVE, rencontre avec Pierre Bédier, président du Conseil général des Yvelines. Alors pour terminer cette émission, si vous le voulez bien, nous allons nous livrer à des questions-réponses très brèves. Le but étant de mieux cerner votre personnalité. Vous êtes prêts ?
On va essayer.
Alors Paris ou province ?
Je suis un provincial dans l'âme.
Sport de ballon ou sport de glace ?
Ballon ovale.
D'accord. Fast-food ou cuisine traditionnelle, vous, l'homme du Sud-Ouest ?
Général.
Les deux ?
Les deux, ou un petit fast-food de temps en temps, c'est pas mauvais.
Très bien. Costard ou jeans ?
Les deux aussi, mais si ça pouvait être tout le temps le jeans, je serais un homme heureux.
Scooter ou vélo ?
Vélo.
Bien. Johnny Hallyday ou Brassens ?
Les deux. Décidément, vous allez penser que je suis une personnalité peu tranchée. Enfin, un peu plus Brassens que Johnny. Mais Johnny, quel monument.
Bien. Champagne ou whisky ?
Champagne.
Et un petit coup d'Armagnac de temps en temps ?
Ah, le Pousse-Rapierre.
Oui.
Ouais. N'est peut-être pas connu de vos auditeurs. Alors, je précise que le Pousse-Rapierre, c'est avec un blanc champanisé, un petit peu d'Armagnac et un petit peu de fleurs d'oranger, et que c'est un apéritif extraordinaire.
Et notamment, le blanc, c'est du château de Montluc.
On peut. Je vois que monsieur est connaisseur.
Bien, alors on va se livrer à la dernière question. C'est une question traditionnelle qui plaît beaucoup à nos auditeurs. Je l'intitule la question à la con. Pourquoi la question à la con ? Parce qu'on a toujours...
Ce sont les meilleurs.
on a toujours tendance à dire, tiens, l'intervieweur, pourquoi il a posé cette question à la con ? Bien, nous, on va la revendiquer, puis je vais vous la poser. Alors, si vous n'aviez pas fait de la politique, Monsieur Bédier, quelle aurait été votre vie ?
J'ai eu une vie avant la politique, c'était celle de créateur d'entreprise, donc je pense que j'aurais poursuivi cette vie. Mais si vous voulez me poser une vraie question à la con, ouais. La vie que j'aurais préféré avoir, c'est une vie d'écrivain. J'adore écrire, mais je suis trop feignant. Et donc je pense que tout seul dans ma j'aurais pas pu être poète maudit, quoi, tout seul dans ma soupente en train de gratter des lignes. Je pense que j'aime trop le contact avec les autres pour y parvenir, et je n'ai jamais réussi à alors que je pense ne pas avoir que de la paresse en moi, mais je n'ai jamais réussi à avoir cette énergie pour pousser jusqu'au bout mon envie d'écrire.
Bien, mais ça vous arrive quand même, vous écrivez quand même un petit peu, non ?
Oui, mais pas assez. Pas assez. J'ai d'accord. Quelques idées de romans en tête que je n'ai jamais pris la peine de faire.
Alors, cette émission touche à sa fin, Pierre Bédier. Merci d'y avoir participé. Je vous rappelle que la semaine prochaine, je recevrai Jean Lacouture. Bonsoir à tous.
Bonne soirée à vous.